Voilà, nous allons prier. Nous allons demander à l'Esprit Saint de faire ce travail dans nos cœurs d'une parole qui passe par les oreilles et qui descend jusqu'au cœur. Et descend jusqu'au cœur, qu'elle nous mette en marche pour le service de Dieu. Quel privilège, Seigneur, d'être réunis devant toi avec des frères et des sœurs pour approfondir, essayer d'approfondir la parole que tu nous as, qui a été transmise de génération en génération. Nous savons que cette parole est faite pour nous conduire, pour nous guider vers toi, pour nous guider vers ce que tu attends d'hommes et de femmes qui se réclament de Jésus-Christ. Tu vois comme quelquefois, Seigneur, nous sommes lents à comprendre, lents à nous mettre en route aussi. Alors, que ton Saint-Esprit fasse vraiment une œuvre encore ce matin. Nous te le demandons chaque dimanche, Seigneur. Mais ce n'est pas superflu de te le demander chaque dimanche. Parce que nous sommes souvent lents à comprendre. Nous sommes paresseux. Alors une fois encore, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit là, au cœur de nos vies, et que nous comprenions ce que tu veux nous dire personnellement ce matin. Amen. Voilà, ce matin, je vais vous lire donc un passage un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je ne pouvais pas le dissocier. C'est dans l'Épître aux Hébreux, le livre des Hébreux, au chapitre 5, et nous poursuivrons donc au chapitre 6 jusqu'au verset 12. Donc, au chapitre 5 de Hébreux, à partir du verset 7. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui, Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, plutôt de sa soumission, dans le texte grec, c'est comme ça, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À ce sujet, nous avons beaucoup à vous dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu, des paroles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. La lettre de l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, puisque vous savez, on ne connaît pas qui est l'auteur, donc on entendrait parler de l'auteur. L'auteur de la lettre aux Hébreux reconnaît lui-même que le passage que je viens de lire est assez sévère. Même s'il s'est imposé à moi, ça n'a pas été chose aisée de le prendre comme texte du message pour aujourd'hui. En effet, c'est un passage qui peut paraître culpabilisant s'il est mal compris, et moralisateur s'il est mal expliqué. Or, ce n'est pas l'intention du Saint-Esprit, et ce n'est pas mon intention non plus. D'ailleurs, l'auteur fait comprendre à ses lecteurs, donc à nous aujourd'hui, qu'il n'y a aucune parole de condamnation dans ce qu'il écrit. Et je recite le verset 6, le chapitre 6, verset 9. « Quoique nous parlions ainsi, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. » En fait, l'auteur nous adresse une exhortation sous forme de mise en garde. Et pour cela, il emploie deux fois le même adjectif en 5, 11 et 6, 12. Cet adjectif constitue le cœur de la mise en garde et souligne le danger de toute vie chrétienne. En français, l'adjectif grec signifie nonchalant, endormi ou bien apathique. Verset 5, 11. Vous êtes venus si lents à comprendre. Là, l'auteur constate. 6, 12. En sorte que vous ne soyez pas nonchalant, là il exhorte à ne plus l'être en quelque sorte. Pour donner du poids à sa mise en garde et pour montrer aux chrétiens le chemin à suivre, l'auteur souligne l'attitude de celui à qui tout chrétien se réfère, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je cite, « Dans les jours de sa chair, Jésus offrit à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort, ayant été exaucé à cause de sa soumission, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Les deux mots importants de ce passage sont soumission et obéissance. C'est cette double vertu qui a fait de Jésus le sauveur des hommes, c'est-à-dire notre sauveur. C'est au jardin de Gethsémané que s'est joué le sort des hommes, notre sort, c'est-à-dire notre salut. C'est là que Jésus a accepté, en toute connaissance de cause, d'offrir sa vie en sacrifice pour notre salut. Et au verset suivant, c'est-à-dire le verset 11, l'auteur écrit « À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire. » À quel sujet ? À quoi fait-il allusion ? Eh bien, il fait directement allusion au fait que Dieu lui-même reconnaît en Jésus le grand prêtre, dont le sacerdoce a permis que les hommes soient sauvés. Mais aussi, il fait allusion à la soumission et à l'obéissance de Jésus, qui l'ont conduit à mourir pour le salut des hommes. L'auteur déplore que la soumission et l'obéissance de Jésus ne deviennent pas un exemple à suivre pour les chrétiens qui se réclament de Jésus, puisqu'ils constatent chez eux nonchalance, apathie et sommeil spirituel. Je cite, « Vous êtes devenus lents à comprendre. » C'est-à-dire, vous êtes devenus lents à comprendre ce qu'est réellement le sens de la vie chrétienne, ce à quoi la grâce imméritée nous engage. Cette somnolence spirituelle dont les chrétiens n'ont pas forcément conscience, tellement ils y sont habitués depuis tant d'années, a des conséquences gravissimes. L'auteur brosse un tableau concret des conséquences de ce sommeil spirituel. Je cite. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables d'enseigner les autres. C'est ça que ça veut dire. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des paroles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. 5, 12, 13. Le texte affirme donc qu'un chrétien de longue date peut cependant être un éternel bébé spirituel s'il n'a pas, je cite, l'expérience de la parole de justice. Verset 13. Que veut dire ceci? L'expérience de la parole de justice, c'est l'engagement concret d'une vie qui se déroule dans une juste relation avec Dieu. C'est quoi une juste relation avec Dieu? C'est-à-dire une vie qui a conscience que l'amour que Jésus a manifesté à la croix pour nous sauver ne devrait pas laisser les chrétiens dans une forme d'indifférence, de nonchalance et de paresse spirituelle, mais au contraire devrait les entraîner dans la soumission et l'obéissance joyeuse et active, comme Jésus a été soumis et obéissant à son Père pour nous sauver. Frères et sœurs, le but premier de la vie spirituelle n'est pas de devenir chrétien pour être sauvé. Être sauvé, c'est certes important, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde par la foi en son Fils Jésus. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est le but? Le but, c'est de devenir des disciples de Christ, c'est-à-dire d'amener des hommes à Christ pour qu'à leur tour, ils deviennent disciples de Christ et ainsi de suite. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Juste avant de remonter près du Père, Jésus ressuscité a donné un dernier commandement à ses disciples, donc à nous. Je cite, « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens ? Non, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, 19. Nous serions sans doute très surpris si le système éducatif français prenait les enfants en primaire et les faisait redoubler année après année, rabâchant indéfiniment les additions, soustractions, divisions, tables de multiplication, accords des adjectifs, ainsi de suite, jusqu'à leur mort. Sur le plan spirituel, c'est pourtant ce que l'auteur dit à ses lecteurs. Je cite, « Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » 5.12. Les programmes de l'éducation nationale sont conçus pour amener les élèves de classe en classe, de classe en classe, jusqu'à ce qu'ils aient acquis suffisamment de connaissances dans quel but ? Mais pour qu'ils entrent dans la vie active. Et c'est exactement le rôle de l'Église. Mais au lieu de la considérer comme un centre de formation pour disciples, beaucoup de chrétiens en font un temple de consommation où l'on se contente de venir remplir son caddie spirituel dimanche après dimanche pour une consommation personnelle. Quelle est la cause qui conduit à cette vision erronée du rôle essentiel de l'Église ? La somnolence, l'apathie spirituelle, qui sont le résultat du manque de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. Je cite, alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires de la parole de Dieu. 5:12. Dans ce verset, l'auteur déplore que ces notions essentielles ne soient pas comprises et surtout mises en pratique, empêchant ainsi certains chrétiens d'être des adultes dans la foi. L'Église n'a pas pour vocation d'être une perpétuelle nurserie où l'on nourrit les croyants au biberon jusqu'à leur mort. Sa vocation, c'est de former des adultes dans la foi qui acquièrent une maturité spirituelle pour entrer dans une vie spirituelle active au service de Christ en tant que disciple. En tant que disciple. Le texte nous met en garde contre une autre conséquence dramatique de l'endormissement spirituel. C'est quoi ? C'est le risque de rétrograder dans la foi. Rétrograder, c'est revenir en arrière. Dans le domaine de la foi, revenir en arrière, c'est se retrouver dans la situation où nous nous trouvions avant notre rencontre avec Jésus-Christ, c'est-à-dire avant notre conversion et notre nouvelle naissance. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien, si j'exagère, alors l'auteur de ce passage exagère aussi. Je relis ce qu'il écrit. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. 6:4-6. Je veux d'abord redire que ce passage n'est pas une condamnation, mais une mise en garde pressante. Lorsqu'on a une foi plutôt tiède, lorsque la place qu'on attribue au Seigneur dans la vie est assez restreinte, mais qu'on continue cependant à faire appel à lui quand on en a besoin, on peut se rassurer à bon compte et se dire « Oh, ce texte ne me concerne pas, car l'auteur parle de ceux qui sont tombés. Mais moi, je crois toujours en Dieu, je lui adresse des prières de temps en temps, je vais au culte lorsque je n'ai rien d'autre à faire et je lis le journal paroissial. » Frères et sœurs, prenons au sérieux la mise en garde de ce texte. On ne tombe pas du jour au lendemain. On ne rétrograde pas du jour au lendemain. C'est une lente évolution qui peut prendre des années. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « ça a pris 20 ans pour moi ». C'est une lente évolution qui peut prendre des années mais qui conduit à la mort spirituelle s'il n'y a pas une prise de conscience à temps. En effet, la léthargie spirituelle est une chose sournoise. On s'y habitue peu à peu, sans se rendre compte qu'on en devient prisonnier. C'est alors qu'intervient l'ennemi de notre âme qui nous susurre à l'oreille que c'est un passage à vide, hein, comme tous les croyants en connaissent, une fois au moins dans leur vie, bref, que ce n'est pas grave du tout et qu'on a tout le temps pour se reprendre, bien sûr. Curieusement, le fait de rétrograder va souvent de pair avec de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles activités sportives, culturelles ou autres, qui mobilisent notre énergie, notre temps et nos pensées. Et du coup, on a de véritables excuses pour justifier notre manque de présence au culte, notre désengagement dans la vie de l'Église, notre peu de goût à lire la Bible et pour prier. Sans compter qu'on se fait de nouveaux amis, des amis la plupart du temps athées, ce qui nous éloigne un peu plus de la vie spirituelle. Pour bien faire comprendre la gravité du fait de rétrograder, deux images nous sont données dans ce texte. Je lis. Lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Dans son endurcissement et son aveuglement spirituel, le chrétien rétrograde n'a plus conscience qu'il ne produit que des chardons aux yeux de Dieu, car les fruits qu'il produit ont de la valeur à ses yeux, ce qui l'enferme un peu plus dans son chemin de rétrograde. Depuis plusieurs mois, par de nombreux signes, le Seigneur nous montre la voie dans laquelle il veut que notre Église s'engage, l'évangélisation. Petit à petit, notre communauté s'est endormie sur ses lauriers, avec les conséquences que l'on voit chaque dimanche, des bancs aux trois quarts vides, aucun enfant, aucun adolescent, et une écrasante majorité de têtes chenues. Nous espérons la vue d'un pasteur, et c'est une bonne chose. Mais prenons bien conscience que ce n'est pas cela qui va redonner vie à notre Église si l'ensemble des membres de notre communauté ne se réveille pas spirituellement. Le futur pasteur ne pourra jamais tout faire tout seul et les membres du conseil presbytéral non plus. Il est grand temps, frères et sœurs, de monter dans le train d'une foi réveillée, d'une foi soumise et obéissante à Dieu. C'est le dernier wagon qui va passer devant nous. Montons-y tous ensemble. Personne ne doit rester sur le quai. Dieu aime notre communauté. Elle a été bénie et il s'y est passé de belles choses. Mais elle s'est assoupie et n'a pas été fidèle au commandement essentiel, c'est-à-dire l'évangélisation. Par l'intermédiaire du texte de ce matin, Dieu nous parle. Dieu nous presse de nous réveiller. Il est tard, sans doute. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais il n'est pas trop tard. Prenons conscience de l'importance de la prière de louange et d'adoration. Elle est le chemin qui conduit à la soumission et à l'obéissance. Pourquoi ? Parce qu'elle nous décentre de nous-mêmes, de nos besoins, de nos frustrations, de nos désirs non assouvis, et nous recentre sur Dieu lui-même, sur son amour inconditionnel et sur sa grâce immérité. La louange et l'adoration conduisent le chrétien à une éternelle reconnaissance et le poussent à s'engager joyeusement pour son Seigneur. Voilà les exhortations et les paroles d'encouragement que Dieu nous adresse aujourd'hui, et je lui relis la fin du texte. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Tu sais, Seigneur, combien les mots sont volatiles. Si tu as parlé à notre cœur à travers ce texte biblique, Seigneur, alors que les mots soient gravés sur nos cœurs, parce que des mots gravés sur nos cœurs, Seigneur, ne s'effacent plus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin que tu nous changes de fond en comble. Nous avons besoin, Seigneur, d'aspirer à recevoir ta vie. Oui, ta vie. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de comprendre que tu as fait ta demeure en nous. De sorte que ce n'est plus nous qui vivons, comme dit l'apôtre Paul, mais que c'est toi, Seigneur, qui vis en nous. Alors que cette parole soit toujours présente à nous, Seigneur, à notre esprit, et que nous puissions te dire, Seigneur, oui, je viens, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu veux parler profondément à mon cœur. Que mes oreilles soient débouchées, Seigneur, pour qu'enfin je me mette en route pour être disciple.